Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, au sommaire en cette matinée du vendredi 7 juin 2024, élection présidentielle au Rwanda, le président Paul Kagame fera face à deux adversaires. Soudan, le chef de l'ONU condamne fermement une attaque meurtrière de paramilitaires. Que retenir de la tournée du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov en Afrique de l'Ouest et du Centre?
Les élites dirigeantes et le ministre Lavrov gagnent là-dedans, mais je ne suis pas convaincu que structurellement, des politiques qui vont durer tant que nos pays ne font pas de réformes.
L'ancien fonctionnaire onusien Amédou Ouldo Abdallah analyse à suivre dans la partie magazine de cette édition. Les premiers astronautes du vaisseau Starliner de Boeing sont arrivés dans la station spatiale internationale. Malgré quelques accros, un dossier à suivre également dans la partie magazine de cette édition. Et en sport, fortune diverse pour les pays africains lors des matchs de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Nous en parlons dans une dizaine de minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Au Rwanda, le président Paul Kagame aura deux adversaires lors des élections du mois prochain, selon une liste provisoire publiée hier par la commission électorale. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Paul Kagame, président sortant, Frank Habineza du Parti démocratique vert et l'indépendant Philippe Mpayimana ont été désignés candidats à l'élection présidentielle du 15 juillet. Habineza et Mpayimana ont déjà été candidats lors des élections en 2017. Le chef de la commission électorale nationale, Oda Gazingzigwa, a déclaré que 9 candidatures ont été reçues. Il a précisé que la candidate Diane Rwigara du mouvement pour le salut du peuple n'a fourni ni extrait de casier judiciaire ni document prouvant qu'elle était d'origine rwandaise comme l'exige la commission électorale. Madame Rwigara n'a pas fourni non plus les 600 signatures requises comme la plupart des autres candidats non retenus, toujours selon Monsieur Gazingzigwa. Madame Rwigara, 42 ans, a été disqualifiée en 2017. Elle a été arrêtée, accusée de falsification, d'incitation à l'insurrection et détenue avant d'être libérée et acquittée en 2018. La liste finale des candidats est attendue pour le 14 juin. Le Rwanda organise les élections présidentielles et parlementaires le 15 juillet. Le gouvernement a décidé l'année dernière de synchroniser les dates des scrutins.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l'attaque qui aurait été menée par les forces de soutien rapide contre le village de Wad al-Noura au Souda dans l'état d'Al-Jazira. Plus de 100 personnes auraient été tuées, c'est ce qu'a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric, appelant les partis au conflit à s'abstenir de toute attaque contre les civils. Selon des militants pro-démocratie, les FSR ont attaqué mercredi ce village du centre du pays à deux reprises à l'artillerie lourde. Et justement, ces nouvelles violences illustrent le conflit sanglant qui déchire depuis plus d'un an le pays. Davantage avec Alexandrine Holoyon.
L'attaque a visé mercredi le village de Wad al-Noura, selon des militants pro-démocratie. Rapportant plus de 104 morts ainsi que des centaines de blessés, le comité de résistance de Madani, un réseau d'entraide entre habitants, affirme que les paramilitaires ont envahi le village, entraînant la fuite de nombreux habitants. La coordinatrice humanitaire de l'ONU dans le pays, Clémentine Kouetta Salami, s'est dite choquée par les informations. Dans un communiqué publié tard mercredi, les paramilitaires ont déclaré avoir attaqué 3 camps de l'armée dans la région de Wad al-Noura et s'être heurtés à leurs rivaux en dehors de la zone habitée. L'armée n'a pas commenté ces événements, mais le Conseil souverain de transition a dénoncé un massacre horrible contre des civils sans défense. L'Organisation internationale pour les migrations a averti ce jeudi que le nombre de déplacés internes dans le pays pourrait dans les prochains jours dépasser les 10 millions.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va prononcer un discours devant le Congrès américain à Washington le 24 juillet. L'invitation a été adressée fin mai aux dirigeants israéliens par les chefs parlementaires républicains et démocrates. Cette invitation survient après des mois de malaise de l'administration du président Joe Biden face à la conduite de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza en riposte à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le président américain a dit publiquement son opposition à une offensive terrestre de grande ampleur à Rafah où plus d'un millions de civils sont piégés. Il a menacé de cesser certaines livraisons d'armes à Israël si son avertissement n'était pas entendu. Et justement, au moins 37 personnes sont mortes à Gaza dans un bombardement contre une école de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a affirmé un hôpital de la bande de Gaza. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe qui, selon elle, visait une base du Hamas. Les détails avec Nanit Talani.
Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a assuré que les avions israéliens ont visé avec des armes de précision trois salles de classe où s'étaient cachés, selon lui, environ 30 combattants du Hamas et du djihad islamique. Dans sa déclaration télévisée, il a affirmé que 9 terroristes ont été tués. Certains ont, selon lui, participé au massacre du 7 octobre ayant déclenché la guerre. Le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a accusé Israël d'avoir frappé sans avertissement préalable une école abritant 6000 déplacés. Les allégations selon lesquelles des groupes armés auraient pu se trouver à l'intérieur de cet abri sont choquantes, a déclaré le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, ajoutant toutefois ne pas être en mesure de pouvoir vérifier ces accusations. Les États-Unis ont appelé Israël à être pleinement transparent en rendant public les noms des personnes tuées, a déclaré le porte-parole du département d'État.
Les autorités canadiennes ont annoncé qu'elles ont démantelé un vaste réseau de trafic de migrants accusés d'avoir acheminé de juillet 2022 à juin 2023 des centaines de personnes du Canada vers les États-Unis. Le réseau faisait payer des milliers de dollars à des migrants déjà arrivés au Canada mais venus d'ailleurs et les aidait à se rendre aux États-Unis en traversant le fleuve frontalier Saint-Laurent. Selon la gendarmerie canadienne, 4 personnes ont été arrêtées et un mandat d'arrêt a été émis pour 4 autres, a indiqué la gendarmerie royale du Canada qui a collaboré avec les autorités américaines dans cette enquête. Ici aux États-Unis, Donald Trump a réitéré ses diatribes anti-immigration hier soir lors de son premier événement de campagne depuis son verdict au pénal. L'ancien président candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain dénonce la politique d'ouverture des frontières de son rival Joe Biden. Joe Biden a annoncé justement mardi qu'il empêcherait les migrants entrés illégalement sur le territoire américain de bénéficier du droit d'asile lorsque leur nombre dépasse les 2500 par jour pendant une semaine, ce qui est actuellement le cas. Le premier jour de mon mandat, j'annulerai ce décret scandaleux, a scandé Donald Trump devant une foule enthousiaste estimant que ce texte était pro-invasion, pro-trafic d'enfants ou encore pro-trafiquant de drogue. États-Unis, toujours, la vague de chaleur extrême a atteint son pic hier soir. Dans une grande partie de l'ouest du pays, des millions de personnes font face à une hausse brutale des températures en ce début de période estivale. Les précisions de Dili Dico.
À Las Vegas, la température est montée à 111 degrés Fahrenheit, soit 44 degrés Celsius. Dans le désert de la Vallée de la Mort, le mercure a atteint les 120 degrés Fahrenheit, soit 48 degrés Celsius. Des records de température en Californie, au Nevada et en Arizona, selon le Service national météorologique américain. La vague de chaleur excessive a été prolongée jusqu'à samedi. Des stations de rafraîchissement ont été ouvertes à Las Vegas, dans la capitale des Jeux d'argent, et certains événements, comme des marchés en plein air, ont dû être déplacés à l'intérieur pour échapper à la fournaise. Les températures doivent tout de même légèrement baisser dans les jours à venir. Une couverture de nuages frais provenant de l'océan Pacifique, connu localement sous le nom de June Gloom, a limité les températures à Los Angeles, la deuxième plus grande ville du pays. Et le pire reste à venir, car les experts prévoient des températures anormalement élevées, donc un été brutal dans le monde entier.
Les deux premiers astronautes transportés par le vaisseau Starlink de Boeing sont entrés dans la station spatiale internationale hier. C'est une étape cruciale franchie pour cette mission attendue depuis des années, malgré de nouveaux problèmes détectés en vol. Quel endroit génial, c'est super d'être de retour ici, a déclaré l'astronaute de la NASA, Butch Wilmore, dont c'est le troisième séjour dans la station spatiale, tout comme sa collègue Sunny Williams. Cette première mission avec équipage pour Starlink représente vise à démontrer que le véhicule est sûr pour commencer ses opérations régulières. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
La Banque mondiale a activé un programme réaffectant des fonds pour faire face aux urgences au Burundi, confronté à un grave défi alimentaire depuis 2 ans. Cela a permis de fournir des transferts monétaires à plus de 50 000 familles et des fournitures agricoles. Le Burundi est confronté à des déficits hydriques, des inondations et des glissements de terrain qui ont dévasté les récoltes à travers le pays. Les perspectives de croissance durable et inclusive de la Zambie pourraient être affectées par la faiblesse des tendances en création d'emplois et par une réponse limitée à la pauvreté. Cependant, les récentes résolutions de la dette et les réformes devraient stimuler les investissements du secteur privé et soutenir la stabilité macroéconomique, assure la Banque mondiale. Pour terminer, en Afrique du Sud, une cour d'appel a suspendu une décision qui avait interrompu l'exploration offshore par Shell le long de la côte sauvage préservée et a accordé aux sociétés pétrolières une nouvelle chance de consultation publique. Le manque de la dite consultation était l'une des principales raisons pour lesquelles un tribunal inférieur avait statué contre Shell et d'autres sociétés pétrolières.
Et sans transition, les nouvelles sportives, on retrouve Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Diverses oppositions hier sur le continent lors des matchs de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les derniers affrontements ont offert des prestations marquantes dans la lutte pour la qualification.
Lors de la troisième journée des éliminatoires de la zone Afrique, des performances remarquables ont été enregistrées, tels que les succès à l'extérieur de la Guinée et du Ghana.
La Guinée s'est imposée 2-1 devant l'Algérie.
La Guinée a créé la surprise en s'imposant 2-1 contre l'Algérie à Baraki. Début de Moïlaï Sila à la 50e minute et d'Aguibou Camara à la 63e minute ont suffi aux Guinéens pour défaire les anciens champions d'Afrique sur leur propre terrain.
Le Ghana, lui, arrache une victoire au forceps 2-1 devant le Mali.
Jordan Ayew a été le héros de la soirée pour les Black Stars. Son but dans les arrêts de jeu a permis au Ghana de réaliser une impressionnante remontée et de décrocher une victoire à domicile contre le Mali à Bamako. Le but de Kamori Doumbouya à la 58e minute semblait assurer la victoire pour le Mali, mais Ernest Nouama a égalisé pour les Ghanéens avant que le jeune des frères Ayew n'offre 3 précieux points à son équipe nationale.
Match nul 1-1 entre la République démocratique du Congo et le Sénégal.
L'égalisation de dernière minute de l'attaquant Fiston Maélé a permis aux Léopards de décrocher 1 point en terre sénégalaise. Ismaïl Assar avait donné l'avantage au Lion avant la pause, mais la RDC n'a pas baissé les bras.
Le Bénin lui s'impose 1-0 devant le Rwanda à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Le Bénin a tenu bon en remportant une victoire 1-0 contre le Rwanda, relançant ainsi les enjeux dans le groupe C. Grâce à ce résultat, les Guépards rejoignent le Rwanda en tête du classement, les deux équipes étant désormais à égalité de points. Le Rwanda conserve toutefois la première place avant le grand choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, prévu pour vendredi à Ouyo.
L'Égypte, elle, s'est fait peur, mais s'impose finalement 2-1 devant le Burkina Faso.
Les pharaons ont démarré entrant au Caire avec Mahmoud Trezeguet inscrivant 2 buts dans les 10 dernières minutes. Lassina Traoré a ensuite réduit l'écart pour les étalons.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. La tournée de Sergueï Lavrov en Afrique de l'Ouest et du Centre a été marquée par des propos anti-occidentaux, tout en renforçant les liens militaires de la Russie avec ses anciennes sphères d'influence françaises. Pour examiner la crédibilité et l'influence de la Russie en Afrique, Eric Manirakiza a joué à Nouakchott, en Mauritanie, l'ancien fonctionnaire onusien Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel.
Cette tournée n'entre pas dans un contexte, n'est pas, comme on dit, ex nihilo, elle n'est pas sortie tout comme ça. Il y a une crise dans le Sahel et dans cette partie d'Afrique, donc Soudan, Libye et tout le Sahel et jusqu'au Tchad, sans mentionner la côte qui est menacée. Donc, dans ce contexte où les régimes sont épuisés par les guerres, mais aussi par leurs propres difficultés internes, mauvaise gestion, corruption, tribalisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, cette tournée peut aider les gouvernements à faire oublier leurs problèmes de mauvaise gestion. Parce que le terrorisme ou le chômage ou la fuite des jeunes et l'immigration vers l'Europe ne viennent pas spontanément. Ce sont les conséquences de politiques structurelles qui ont failli et qui ne convainquent pas les populations. Donc, ce tournée donne un apaisement, quelle que soit l'intégrité du ministre de son pays. Cette tournée, les pays visités y voient aussi leur intérêt de faire oublier les déficits politiques, les déficits de contact avec les populations, et pour justifier les ruptures avec les démocraties occidentales, ruptures qui auraient pu se faire autrement. Nous sommes dans une ère où on ne rompt plus brutalement, nous ne sommes plus dans la guerre froide, quels que soient les comportements issus là. Donc, les élites dirigeantes et le ministre Lavrov gagnent là-dedans, mais je ne suis pas convaincu que structurellement, des politiques qui vont durer tant que nos pays ne font pas de réformes, comme je l'ai dit, politiques contre la corruption, donner un espoir aux jeunes contre l'immigration où des milliers meurent chaque année et surtout une fuite loin de leurs racines, de l'économie. Et voilà, tel que je vois dans le stade de cette visite, bonne pour le gouvernement, bonne sans doute pour Moscou pour le moment, et il faut voir la suite. La perte momentanée, c'est pour les démocraties occidentales, mais elle n'est que momentanée, la vie étant faite de cycles.
Vous soulignez notamment des problèmes liés au chômage, à l'organisation même de nos pays, la gouvernance, les libertés publiques, les libertés politiques. Qu'est-ce que Moscou peut apporter pour régler ces problèmes structurels dont vous parlez?
Je pense que Moscou, la Russie et nos dirigeants, ce qui les intéresse pour le moment, je ne sais pas s'ils harmonisent leur position, mais ce qui intéresse la Russie, c'est de combler ou de créer des vides en Afrique de l'Ouest. S'il y a un vide avec le départ des Français et des Occidentaux, avec les difficultés entre l'Europe et l'Afrique, surtout du Nord, l'Afrique centrale et de l'Ouest, avec l'immigration, les Occidentaux, pour le moment, ne sont pas dans une position très favorable, mais la Russie, structurellement, est très loin et non intéressée. On l'a vu après les années d'indépendance en Guinée, au Mali, au Ghana. Donc, je ne pense pas que la Russie cherche une présence structurelle dans notre région.
L'ancien fonctionnaire onusien Amédou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Direction la Côte d'Ivoire, dans la petite ville d'Odienné dans le Nord. Une centaine d'enfants forment un orchestre philharmonique, le premier du genre dans le pays. Un projet fou, car la plupart de ces jeunes musiciens ruraux n'avaient jamais vu certains des instruments de musique utilisés lorsqu'ils ont commencé. Thierry Kaoré raconte.
Chaque jour après l'école, 139 enfants âgés de 6 à 16 ans sont récupérés par un minibus pour répéter les mélodies pendant 2h30, encadrés par une dizaine de professeurs dans un hôtel. Pour le chef d'orchestre, Fabrice Kofi, c'est un concept fou dans une région comme celle-ci.
On fait le chemin inverse de ce qu'un orchestre traditionnel fait. C'est-à-dire au moment où l'orchestre traditionnel est le rassemblement de tous les meilleurs qui ont passé les concours, qui ont eu leur diplôme, etc. Ici, l'orchestre de Djéné, l'orchestre philharmonique des enfants de Djéné a commencé par l'arrivée. C'est-à-dire on les rassemble d'abord en orchestre et c'est là qu'ils découvrent les instruments, la technique de jeu, le solfège, la musique et tout.
Dans la salle où Balafon et Djembe côtoient les instruments européens, Leila Koulibaly, 9 ans, passionnée du violon, a déjà une ambition.
Je vais être musicienne professionnelle parce que l'orchestre va changer ma vie.
En août 2023, près d'un an après le début de leur aventure, le groupe s'est produit devant le président ivoirien Alassane Ouattara à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du pays. Ils ont également donné un concert lors de la cérémonie de clôture de la CAN 2023 remportée par la Côte d'Ivoire. Des moments pleins d'émotions dont se souvient Leila Koulibaly.
J'ai été très contente. Je jouais devant plein de personnes à mon fait, on dirait bizarre. J'ai eu trop peur devant jouer devant les personnes. Maintenant, j'ai repris confiance en moi et j'ai joué devant tout le monde. Et ça m'a plu de jouer devant tout ce monde.
L'économie d'Ondjene, petite ville de 86 000 habitants, repose sur l'agriculture qui implique parfois le travail des enfants. Mais la création de ce groupe musical a donné de l'espoir à certains d'entre eux, comme Siakasi Savané, 15 ans. Il est le tromboniste de l'orchestre.
Ça a changé ma vie. Oui. Depuis tout petit, je rêve d'être musicien. Je veux faire trombone avec jouer. Depuis tout petit, je rêve d'être musicien. Et aujourd'hui, ma rêve s'est réalisé.
Inspiré du concept vénézuélien, El Sistema, un accompagnement musical d'enfants issus de milieux défavorisés, l'orchestre a été créé à l'initiative du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Camara, qui le finance personnellement.
Ici aux États-Unis, les législateurs sont divisés sur le décret du président Joe Biden, imposant de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile arrivant illégalement à la frontière sud. À l'approche des élections de novembre, le débat sur l'immigration reste une question difficile. Reportage de notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, récit Claire Morin-Gibbon.
Le décret du président Joe Biden a pris effet immédiatement. Aucune procédure d'asile ne sera entamée tant qu'il y aura plus de 2500 arrivées par jour à la frontière. Colin Putzel-Cavano est analyste au Migration Policy Institute.
Il s'agit d'une tentative de limiter les stratégies irrégulières entre les postes frontières et d'encourager les gens à utiliser certaines des voies légales qui existent actuellement.
Au Capitole, les républicains du Congrès disent que le décret de M. Biden ne règle pas le problème. Mike Johnson, président de la Chambre des représentants.
Il y a 126 jours aujourd'hui, Joe Biden a déclaré « J'ai fait tout ce que je pouvais faire ». On lui a demandé pourquoi il n'utiliserait pas son pouvoir exécutif pour s'attaquer à la catastrophe à la frontière qu'il a lui-même créée. Il y a 126 jours, il a regardé les caméras et a dit « Je n'ai plus d'options ».
Le présumé candidat républicain à l'élection présidentielle, Donald Trump et d'autres républicains font pression sur M. Biden pour qu'il aborde la question du nombre de passages illégaux à la frontière. Mitch McConnell, leader de la minorité au Sénat.
La plus grande erreur de cette administration, à mon avis, et toute cette crise remonte au moment où le président a prêté serment. Les politiques qu'il a menées ont créé la crise à la frontière et elle ne sera pas résolue par les décrets qu'il va prendre.
Mais les démocrates ont fait valoir que le décret était nécessaire, car les républicains ont refusé de voter en faveur d'un accord sur la frontière au début de l'année. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat.
Les républicains ont d'abord dit qu'il s'agissait d'un projet de loi très bon et solide. Puis ils ont fait volte-face lorsque Donald Trump a été clair. Il voulait que le projet de loi échoue pour créer les chaos aux frontières. Nous préférons que les républicains se joignent à nous.
Dans l'État frontalier de l'Arizona, certains membres d'associations communautaires sont frustrés que les parlementaires américains ne soient pas parvenus à un accord sur l'immigration. Le sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, a déclaré que le décret de M. Biden répond à certains des problèmes.
Il s'agit également d'une situation dangereuse pour les migrants. Elle est dangereuse pour les agents de la patrouille frontalière et pour les personnes qui vivent dans ces communautés.
Mais l'Union américaine pour les libertés civiles a déclaré que les nouvelles restrictions de la procédure d'asile de l'administration Biden sont illégales et qu'elle va saisir la justice.
Le vaisseau Starliner de Boeing s'est amarré hier à la Station spatiale internationale. Lors de son premier voyage avec équipage, deux pilotes décèdent de la NASA. La capsule a été retardée par un problème de propulseur qui a failli faire dérailler l'amarrage. Nathalie Barge revient sur le lancement mercredi de la fusée Atlas V à Cap Canaveral en Floride, qui avait été reportée plusieurs fois.
Boeing doit démontrer la fiabilité de son vaisseau avant de commencer des missions régulières, sachant que SpaceX d'Elon Musk assure le transport d'astronautes de la NASA vers l'ISS depuis 2020. Cette version Starliner a été baptisée Calypso en hommage au navire du commandant Cousteau. Les astronautes composant l'équipage sont Butch Wilmore, 61 ans, et Sonny Williams, 58 ans. Wilmore s'est montré optimiste, non sans cacher son impatience, quelques minutes avant le compte à rebours.
Sonny et moi sommes honorés de partager ce rêve de vol spatial avec chacun d'entre vous. Cela dit, allons-y, mettons du feu dans cette fusée et poussons-la vers le ciel.
Ignition and liftoff of Starliner and Atlas V.
Les deux vétérans de l'espace en sont à leur troisième voyage à la Station spatiale internationale. Ils doivent revenir sur Terre à bord de Starliner dans une semaine et demie pour atterrir le 14 juin dans le désert du sud-ouest des États-Unis à l'aide de parachutes qui le ralentiront à 6 km/h avant de gonfler des gros airbags. Williams et Wilmore ont participé au développement de Starliner. Après le décollage, les deux pilotes d'essai formés à l'US Navy ont testé le pilotage manuel. Des nouvelles fuites d'hélium ont été détectées en vol, mais ne présentent pas de danger selon Boeing, assurant que deux valves affectées ont été fermées. Une petite fuite avait déjà été identifiée avant le décollage.
Starliner and Atlas. Looking good with speeds and attitude.
Good handle.
Affaibli par des problèmes de sécurité sur ses avions de ligne, Boeing espère obtenir la certification de la NASA sur cette mission spatiale qui a connu plusieurs ratés depuis 2019. Starliner, sans équipage, est parvenu à atteindre la Station spatiale internationale pour la première fois en mai 2022. Après l'arrêt des navettes spatiales américaines en 2011, les astronautes de la NASA ont voyagé à bord des vaisseaux russes Soyouz. Si cette mission réussit, la NASA pourra utiliser des vols de Boeing et de SpaceX.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouidraougo, Sims Lumami à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.